SBS Radio.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme promis et comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité en France, les 7 derniers jours d'actu en France avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on commence tout d'abord avec le président Emmanuel Macron qui s'est rendu dans le département de l'Aude, victime de terribles inondations il y a 8 jours.
Oui, Emmanuel Macron s'est rendu sur place une semaine après ces terribles crues, ces pluies diluviennes qui ont tout emporté et qui ont causé la mort de 14 personnes. Il y a également 70 blessés. Des inondations comme il n'y en avait pas eu depuis plus d'un siècle dans la région. En quelques heures, il est tombé autant d'eau qu'en 3 mois. Le département de l'Aude avait été placé en vigilance orange, mais ce système d'alerte a ses limites. Tout s'est emballé en une nuit et les populations des différents villages du département se sont retrouvées pris au piège. Rien ne laissait présager des pluies d'une telle violence, une montée des eaux si soudaine. 14 morts donc au final. Et Emmanuel Macron, qui est donc allé à la rencontre des familles de victimes, des populations. « Quand je vois des gens qui ont perdu, a-t-il dit, des gens qui ont perdu des proches en une demi-heure, ils sont d'une dignité, d'une force », a précisé le président, ajoutant dans un message plus large et plus politique, là, on est fort partout en France et parfois on l'oublie, je suis fier d'être là, a encore lancé le chef de l'État qui, pour ce déplacement, était accompagné du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a précisé avoir demandé aux assureurs, également via le gouvernement et le Premier ministre, Édouard Philippe, d'effectuer les remboursements le plus vite possible. Car si le gouvernement a demandé que l'état de catastrophe naturelle soit enclenché dès maintenant, pour justement accélérer toutes ces procédures, que toutes ces questions d'assurance, de remboursement sont très longues à se mettre en route, et qu'une fois les ministres et présidents reparti, eh bien les populations sont laissées bien souvent à leur quotidien et à leurs difficultés. En tout cas, cette catastrophe pose de nouveau tout un tas de questions. Comment n'a-t-on pas pu anticiper les choses dans cette région du sud de la France, l'Aude régulièrement en proie à des orages, à des pluies diluviennes? Ce n'est pas la première fois. La question de l'aménagement du territoire est posée durant la crue. L'hôpital de Carcassonne, par exemple, a vu une partie de ses sous-sols littéralement inondés. Or, l'établissement et tout neuf, il a été inauguré il y a 4 ans seulement. Comment a-t-on pu construire ainsi un hôpital en zone inondable? À l'époque, les syndicats, et ils l'ont rappelé ces derniers jours, s'étaient inquiétés du risque d'inondation potentielle. Tous les travaux nécessaires en amont ont-ils été faits? Le rapport aux prévisions météo se pose aussi, on l'a dit, sur place. Les populations rappellent que quelques semaines avant le drame, il y a déjà eu d'autres alertes oranges, synonyme de pluie un peu plus forte que d'habitude seulement, mais sans plus. Et là, Météo France, avant cette nuit de folie, a de nouveau brandi cette alerte orange. Les populations ne se sont donc pas inquiétées plus que cela pour un résultat à l'arrivée, on l'a vu, catastrophique. Le gouvernement a expliqué qu'il allait tout faire pour permettre d'affiner les prévisions météo. La ministre de la Justice précisant qu'un super calculateur météo serait disponible d'ici 1 an et demi pour affiner les prévisions.
À la une encore, bien entendu, on en a parlé énormément. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui est plutôt en colère.
Eh bien, c'est un peu l'arroseur arrosé. Jean-Luc Mélenchon, 4e homme de l'élection présidentielle de 2017, il avait fini tout près des 20% des suffrages au premier tour. Et il a adopté, depuis cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, depuis 1 an et demi, le rôle d'opposant farouche à Emmanuel Macron, le président, et au gouvernement. Leader de la gauche et de l'extrême gauche à la fois, Jean-Luc Mélenchon, qui entend réunir tous les mécontents, tous les laissés pour compte, il dresse le portrait d'un chef de l'État qui serait le président des riches. Il a la formule facile, Jean-Luc Mélenchon, il a le verbe haut, mais voilà qu'il se retrouve à son tour pris les pieds dans le tapis avec 2 enquêtes qui visent son parti, 2 enquêtes qui sont en cours, l'une pour les comptes de campagne du parti et du candidat Mélenchon, les comptes de campagne de la présidentielle de 2017, l'autre concernant de supposés emplois fictifs au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, comme tous les leaders politiques, adore donner des leçons, fustiger l'attitude de ses voisins concurrents, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, avec des joutes verbales régulières avec Marine Le Pen, ex-Front National, le MoDem, le parti centriste de François Bayrou, lui aussi empêtré dans les mêmes problèmes judiciaires, ses emplois fictifs présumés au Parlement européen à Strasbourg, des attachés parlementaires et des fonds normalement liés aux élus européens, mais que ces différents partis utiliseraient directement pour faire tourner les intérêts du chef de file du parti, en l'occurrence François Bayrou, Marine Le Pen ou donc Jean-Luc Mélenchon. Cela a valu à Marine Le Pen une mise en examen pour détournement de fonds publics et la saisie à titre conservatoire d'€1 million. François Bayrou lui a été rattrapé juste après avoir été nommé ministre de la Justice dans la foulée de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en mai 2017. Il a dû quitter son poste au bout de quelques semaines seulement. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, pensait sans doute être passé à travers les gouttes, mais il y a ces deux enquêtes en cours et l'affaire s'emballe depuis quelques jours. Les locaux du parti La France Insoumise, mais aussi son domicile à Jean-Luc Mélenchon, ont été perquisitionnés par la police. L'intéressé ne s'en est pas caché, puisqu'il a filmé la scène pour la rendre publique sur les réseaux sociaux. La perquisition en cours, les policiers chez lui. Et depuis une semaine, eh bien, il joue la victime. Il a décidé de s'en prendre aux médias, aux journalistes, à ceux qui tentent de révéler ce qu'ils pourraient cacher, à ceux qui révèlent, comme Mediapart, le site d'information en ligne, que 12 000 euros en liquide auraient été trouvés au domicile de l'un de ses plus proches collaborateurs. Jean-Luc Mélenchon appelle ses partisans à la résistance, ciblant là les journalistes de France Info, la radio, hein, il a eu ces mots à leur encontre. Pourrissez-les partout où vous pouvez. Il faut qu'à la fin, il y ait des milliers de gens qui disent « Les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs ». Ce sont là les propos qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon dans une tribune publiée sur Facebook. On franchit une certaine limite, là, dans le jeu, si tant est que cela en est un, dans le jeu, dans le rapport de force entre les politiques et les médias, à tel point que la direction de Radio France a fait savoir qu'elle allait porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Et depuis plusieurs jours, eh bien, vous avez toute la profession des journalistes, des médias qui se mobilisent, qui réagit, car amadouer les médias quand on en a besoin, Jean-Luc Mélenchon sait le faire, mais là, nous parlions de l'arroseur arrosé, il ne supporte pas que l'on puisse s'en prendre à sa propre personne, que l'on puisse s'en prendre à ses intérêts, même quand certaines allégations semblent avérées, même quand la justice a de bonnes raisons de s'intéresser aux activités de son parti, la France Insoumise.
Allez, pour terminer, une étude sur les bienfaits du bio.
Oui, pour terminer, c'est une étude menée par des épidémiologistes français qui avance que ceux qui consomment des aliments issus de l'agriculture biologique ont un risque de cancer inférieur de 25% à ceux qui ne consomment pas ou quasiment pas de produits bio. À l'inverse, cela veut dire que si vous vous contentez d'acheter les aliments qu'on vous propose dans les supermarchés, vous avez 25% de chances en plus de contracter un cancer que ceux qui se sont tournés vers l'agriculture bio. Alors, cela peut paraître logique, mais dans les faits, les grandes agences de santé publique affirment pourtant dans leurs conclusions, celles qui sont remises au gouvernement, que les résidus de pesticides dans l'alimentation, même s'il y en a, ils n'ont pas d'impact significatif sur la santé. Or là, cette nouvelle étude, très poussée, prouve tout simplement le contraire. Cette étude qui s'appuie sur une cohorte, la cohorte Nutrinet, très large, ce sont 70 000 personnes dont les habitudes alimentaires ont été scrutées pendant plusieurs années. Et les conclusions des chercheurs, les chiffres sont là. Plus on consomme bio, des fruits, des légumes qui n'ont pas été traités par les pesticides, moins on a de chances de contracter un cancer, encore fallait-il le prouver. Le débat sur les pesticides est très présent en ce moment en France, à différents degrés. Hein. Il y a l'exposition directe aux pesticides dans l'air, dans les zones où ils sont utilisés, dans les champs, mais il y a aussi tous ces résidus, tout ce qu'il va rester dans les différents aliments que nous pouvons acheter, ces résidus de pesticides qui peuvent, oui, avoir de fortes répercussions sur notre santé.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu en France pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.